Le journal avec Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. La France traiterait ses contestataires comme le Venezuela ou le Zimbabwe. L'ONU demande une enquête sur les violences policières contre les gilets jaunes. Le gouvernement proteste. Les personnels des prisons, eux, aimeraient davantage de soutien des pouvoirs publics pour empêcher de se faire agresser par les détenus, comme cela s'est produit hier à la prison de Condé-sur-Sarthe. Les fouilles des visiteurs, par exemple, ne sont pas systématiques. Un président fantôme qui brigue un cinquième mandat en Algérie, mais les Algériens n'en perdent pas leur humour. Pour autant, ils inondent en ce moment de messages ironique, l'hôpital en Suisse où Abdelaziz Bouteflika serait soigné. Une artiste qui chante le Sahara occidental voit son concert annulé à l'Institut du monde arabe à Paris sous la pression du Maroc, dénonce la chanteuse. Et puis les amateurs de jazz ont le blues. Jacques Loussier est mort, ce pianiste qui avait fait swinguer Jean-Sébastien Bach.
Un jour dans le monde à 18h15 dans l'est de la Syrie à Baghouz, depuis plusieurs jours, l'ultime bataille contre Daesh. Baghouz assiégé par les forces démocratiques syriennes, le califat terroriste de Daesh qui s'étendait sur un vaste territoire en Syrie et en Irak. Ce califat n'existe plus. Quelles conséquences sécuritaires, militaires et diplomatiques? Nous recevrons Agnès Levallois, qui est vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Au téléphone sonne à 19h20, de moins en moins de femmes dans les métiers du numérique, secteur essentiel de la vie économique. Alors il y a déjà les inégalités salariales. Voilà encore une illustration de l'inégalité homme-femme au moment où l'Académie française fait sa révolution et accepte enfin la féminisation des noms de métiers. Nous attendons vos témoignages, vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Amélie, la France abuse-t-elle de la force dans les manifestations?
L'ONU vient d'interpeller Paris à propos des violences policières dénoncées aussi par les gilets jaunes. La haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, demande une enquête approfondie. Elle a cité la France à côté d'États comme le Soudan ou Haïti. Bonsoir Audrey Tison.
Bonsoir.
Ça n'a pas du tout plu à l'exécutif français.
Oui, Yémen, Philippines, Cameroun. Dans son rapport annuel, Michelle Bachelet égrène les situations problématiques jusqu'à citer la France.
Les gilets jaunes protestent contre ce qu'ils considèrent comme une exclusion des droits économiques et de leur participation aux affaires publiques. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue et nous demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force.
Elle enchaîne avec d'autres pays où des manifestations ont été violemment réprimées, Soudan, Zimbabwe, Haïti, un parallèle qui ne plaît guère aux porte-parole du gouvernement français.
Il faut s'étonner tout de même de se retrouver cité dans une liste entre le Venezuela et Haïti où il y a eu des morts.
Benjamin Griveaux insiste, à chaque fois que cela est nécessaire, des enquêtes sont lancées. 162 enquêtes ouvertes par l'Inspection Générale de la Police Nationale. La plateforme de signalement est d'ailleurs ouverte à tous. Mais pour le porte-parole, pas question de pousser un vrai coup de gueule envers une représentante des Nations Unies.
Évidemment, nous suivrons les recommandations avec la diligence nécessaire parce que lorsque l'Organisation des Nations Unies s'exprime, la moindre des choses, c'est de les écouter, de les prendre en considération.
Il faut préciser que ce n'est pas la première institution à épingler l'État français. Il y a une semaine, c'est le Conseil de l'Europe, par la voix de sa commissaire aux droits de l'homme, qui s'indignait de la gestion française et demandait de suspendre l'usage des fameux lanceurs de balles de défense.
Merci beaucoup Audrey Tison. Le maintien de l'ordre en question dans nos prisons également, au lendemain de l'attaque de deux surveillants par un détenu radicalisé à Condé-sur-Sarthe, pourtant l'un des établissements les plus sécurisés de France. Les personnels de 18 centres pénitentiaires en France ont bloqué les accès aujourd'hui pour protester contre le manque de moyens matériels et législatifs pour prévenir ce genre d'agression. Ils ne peuvent pas, par exemple, fouiller tous les visiteurs des détenus. C'est ainsi que la femme de l'assaillant a pu faire entrer un couteau à Condé-sur-Sarthe. Le député de l'Orne, Joachim Pueyo, ancien directeur de prison, s'est justement rendu sur place cet après-midi.
Il faut revoir la procédure du contrôle des visiteurs parce que les visiteurs actuellement sont contrôlés de la manière suivante. Il y a un portique, lorsqu'il passe sous le portique, qui détecte uniquement le métal. Et par conséquent, si cette personne qui rentre en prison pour aller visiter un détenu a sur elle des matières non métalliques, on ne peut pas les détecter. Et donc c'est quand même un sujet majeur. Il faudrait renforcer le contrôle des visiteurs, c'est-à-dire que les services pénitentiaires soient autorisés à faire également des fouilles par palpation s'il y a une suspicion quelconque. Et actuellement, on ne le fait pas. Sauf si le portique sonne. Mais s'il sonne pas, eh bien, le piéton, la personne passe sous le portique, sans difficulté particulière.
Joachim Pueyo, joint par Sophie Parmentier, le député PS de l'Orne, ajoute également qu'il va écrire à ce sujet à la ministre de la Justice. Les agents des douanes, eux, s'inquiètent du Brexit, toujours prévu à la fin du mois pour l'instant. Ceux de Calais et Dunkerque étaient en grève aujourd'hui encore, grève du zèle, avec à la clé des heures d'attente, des kilomètres de bouchons avant le tunnel sous la Manche, 3000 camions à l'arrêt. Les douaniers réclament des moyens supplémentaires pour faire face à la sortie du Royaume-Uni de l'espace européen. Leur ministre les a entendus, Gérald Darmanin. Manin les invite à Bercy en début de semaine prochaine. Faute d'accord européen sur la taxe GAFA, la France met en place sa propre imposition pour les géants du numérique, les Google, Amazon, Facebook, etc. Le gouvernement a présenté son projet en Conseil des ministres. Un taux d'imposition de 3% pour les entreprises qui font un chiffre d'affaires sur leurs activités économiques de 750 millions d'euros dans le monde et de plus de 25 millions d'euros en France. Un moyen de rattraper l'injustice actuelle entre ces gros GAFA imposés à hauteur de 9% contre 23% pour les entreprises européennes en général. À Paris, c'est la plateforme Airbnb que l'on voudrait faire payer, mais pas simple d'encadrer les locations de meublés pour les touristes. La capitale vient de perdre une bataille dans sa guerre judiciaire contre l'application américaine. Fabien Cazot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous pour nous expliquer. Alors, la mairie de Paris veut obliger les propriétaires à se déclarer auprès de la ville pour limiter le nombre de nuitées et elle comptait sur la plateforme pour faire le tri entre ceux qui déclarent et ceux qui ne le font pas, mais la justice, Fabien, n'a pas suivi.
Exactement, la mairie de Paris veut contrôler l'activité d'Airbnb qui n'en finit plus de se développer dans la capitale. Comment ? En demandant aux propriétaires de se déclarer au préalable auprès d'elle, ce qui permet de faciliter les contrôles. Un propriétaire ne peut en effet louer son logement sur Airbnb que maximum 4 mois par an. Problème, Airbnb publie sur son site toutes les offres qui lui parviennent, y compris celles qui ne sont pas déclarées à la mairie. La ville de Paris considère que c'est illégal, mais elle n'est pas parvenue à le faire reconnaître en justice, loin de là même, puisqu'elle a été condamnée à verser 10 000 euros à la filiale française d'Airbnb. La mairie ne s'avoue pas vaincue. Pour autant, une deuxième plainte a été déposée, un deuxième jugement sera rendu le 21 mai prochain. Airbnb a beau toujours déclarer officiellement vouloir travailler en bonne intelligence avec la ville de Paris, le contact semble ce soir totalement rompu.
Fabien Cazot, chef du service économie de France Inter, merci à vous.
Et c'est l'une des images fortes du jour. L'un des hommes les plus puissants de la planète sortant de prison en tenue d'ouvrier.
Un blouson bleu, casquette vissée sur la tête, masque chirurgical sur la bouche. Carlos Ghosn, l'ex-patron de Renault-Nissan, est sorti de la prison de Tokyo après 3 mois et demi passés en cellule. Il a payé une caution de près de 8 millions d'euros et se retrouve en liberté conditionnelle. On attend désormais une conférence de presse où il devrait clamer son innocence. Lui que l'on accuse d'avoir caché une partie de ses revenus. Lui aussi se fait très rare devant les caméras. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Et pendant qu'une partie de son pays manifeste contre sa candidature à un cinquième mandat, lui se ferait soigner très loin de là, en Suisse, à Genève, à l'hôpital universitaire de la ville, selon l'émission quotidienne de TMC. Émission suivie par les Algériens qui, depuis, inondent le standard de l'établissement et la messagerie du médecin qui le soignerait. Des messages, Thibaut Cavillès, qui ne manque pas d'ironie parfois.
Cher docteur, on voudrait avoir des nouvelles de notre cher président. Nous avons ouï dire que vous le soignez si bien qu'il risque de rempiler pour un cinquième mandat. Le mail est adressé directement au neurochirurgien qui s'occuperait d'Abdelaziz Bouteflika. Ses coordonnées circulent désormais sur les réseaux sociaux. Les Algériens s'en donnent à cœur joie, appelant également en masse le standard de l'hôpital.
Hôpital universitaire, bonjour.
Madame, on a entendu aujourd'hui que Monsieur Bouteflika, il est là-bas, chez vous, c'est ça?
Alors, dans le répertoire des patients que je peux consulter, le nom de Monsieur Bouteflika ne figure pas, monsieur.
Mais tu sais, le peuple algérien, il est inquiète.
Demander ironiquement des nouvelles, mais aussi, moins tendre, proposer une solution dans un pays qui autorise l'euthanasie.
Débranchez-le, s'il vous plaît. Monsieur, une panne d'électricité, on ne vous soupçonnera pas. Vraiment, on ferme les yeux. Ce n'est pas vous.
L'hôpital reçoit habituellement 3000 appels par jour. Hier, c'était le double selon sa direction. Mais les standardistes ont pris le parti d'en rire.
On a livré 4 pizzas au 8e étage, mais ça n'a pas été réglé.
C'est pas mal celle-là.
Et ils doivent payer les 4 pizzas, sinon il n'y aura pas de 5e pizza.
La direction de l'établissement nous confiait ce matin que les services n'ont finalement pas été trop perturbés par l'assaut téléphonique.
Thibaut Cavaillès, merci. L'Europe a-t-elle cédé aux pressions des États-Unis et de l'Arabie Saoudite? En tout cas, les représentants des 28 ont rejeté aujourd'hui une liste noire qui déplaisait beaucoup à Riyad. Une liste noire des pays coupables de blanchir des capitaux et de financer le terrorisme. La commission à Bruxelles voulait y ajouter 7 nouveaux États, dont l'Arabie Saoudite, mais ce ne sera pas pour cette fois, Quentin Dickinson.
À la demande des pays de l'UE, la Commission européenne avait passé au peigne fin une cinquantaine d'États fortement soupçonnés de fermer assez systématiquement les yeux sur les opérations de blanchiment d'argent sur leur territoire. Après enquête, 16 de ces pays se sont retrouvés sur une liste noire, laquelle oblige les banques européennes à des vérifications supplémentaires des mouvements de capitaux de et vers ces petits paradis spécialisés. C'est le rajout par la Commission de 7 pays supplémentaires qui a déclenché une vague de critiques portant essentiellement sur la méthodologie utilisée et fortement inspirée par Washington. 2 sont en effet des alliés des États-Unis, le Panama et l'Arabie Saoudite, et 4 sont des possessions américaines. Aujourd'hui, les ambassadeurs des 28 pays de l'UE ont cédé et ont à l'unanimité recommandé à leur ministre de l'Intérieur de rejeter la liste dans sa composition actuelle et de demander à la Commission européenne de revoir sa copie. Ce sera chose faite sans débat ni vote demain matin. Quentin Dickinson, France Inter, à Bruxelles.
Les Français choisissent l'heure d'été. La consultation citoyenne organisée par l'Assemblée nationale a recueilli plus de 2 millions de réponses, un record. Plus de 80% des participants se prononcent pour la fin du changement, 2 fois par an, et une majorité encore pour rester à l'heure d'été. Le résultat doit être transmis aux institutions européennes. Avant de passer à la culture, un mot de sport, puisque le rendez-vous du soir, c'est le match PSG-Manchester United à 21h au Parc des Princes, 8e de finale de Ligue des Champions. Et ballotage favorable pour les Parisiens avec leur victoire 2-0 à l'aller.
Amélie Perrier, une chanteuse privée de scène à Paris car elle gênerait un peu trop le Maroc.
Elle s'appelle Aziza Brahim et son concert a été déprogrammé par l'Institut du Monde Arabe, le musée parisien. La chanteuse vient du Sahara occidental, un territoire voisin et en conflit avec le Royaume du Maroc depuis plus de 40 ans. Aziza Brahim chante l'histoire de son peuple sahraoui et la difficulté. Isabelle Pasquier, bonsoir.
Bonsoir.
On pouvait se douter que le nom de cette chanteuse à la fiche de Lima, l'Institut du Monde Arabe irriterait le Royaume donc.
Oui, c'est sûr, car le pouvoir marocain voit Aziza Brahim comme une activiste proche du Front Polisario, ce que dément la chanteuse qui a grandi dans les camps de réfugiés sahraouis. Alors pourquoi une telle pression du pouvoir marocain pour une chanteuse? Eh bien tout simplement parce que déjà elle est un symbole de la résistance du peuple sahraoui et puis parce que la musique, les chansons sont toujours les bêtes noires des pouvoirs politiques, car contrairement à l'art ou par exemple au théâtre, elles sont très virales sur les réseaux sociaux, donc vite populaires et dangereuses. Résultat, face au Maroc qui menaçait de suspendre les subventions de ses mécènes, Lima n'a pas résisté.
Et pour l'heure, aucune déclaration de Jack Lang. Hein.
Aucune déclaration. Jack Lang est pourtant un grand ami du Royaume, mais son intervention, visiblement, n'a pas réussi à calmer le jeu. Aziza Brahim dénonce une censure et une ingérence du politique dans le culturel, mais elle se produira quand même à Paris le 26 avril prochain au Pan Piper.
Merci Isabelle. Voilà pour Aziza Brahim. On va finir avec quelques notes de musique encore, cette fois pour saluer la mémoire de Jacques Loussier. Réussi à faire swinguer du Bach du Jean-Sébastien Bach, ici la toccata en ré mineur, avec son trio baptisé Playback, fondé en 1959. Compositeur et pianiste de jazz exceptionnel, il frayait aussi du côté du musical, avait signé des morceaux pour le cinéma ou la télé, dont le générique, presque aussi célèbre que Bach, de Thierry Lafronde. Et il vient de rejoindre le paradis des musiciens à l'âge de 84 ans.
Thierry Lafronde. Amélie Perrier.
Playback, surtout.
Ouais, absolument. On se retrouve dans un quart d'heure sous les radars de l'actualité. Quel programme?
Du patriotisme dans les avions en Inde. On demande aux hôtesses de crier leur ferveur pendant les consignes de sécurité. Au Liban, des habitants d'une vallée manifestent contre un projet de barrage. Et puis, un rap en anglais pour faire la propagande du régime chinois.
À tout à l'heure, Amélie. Les couleurs du ciel, c'est maintenant.
La météo Avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Nous avons rendez-vous avec Élodie Calac de Météo France. Bonsoir Élodie.
Bonsoir à tous.
Encore agité ce soir et cette nuit.
Et oui, les vents tempêteux persistent encore quelques heures sur les Pyrénées. Ça va se calmer tout de même en soirée. Sur l'ouest et le nord du pays, il pleut. Alors des orages gagnent l'Aquitaine avec de fortes rafales de vent, parfois de la grêle. Ce temps va gagner ensuite l'est du pays ce soir et cette nuit. Le vent peut atteindre jusqu'à 90 à 120 km à l'heure sur le sud de la Loire, le sud du Rhône et puis parfois même 130 du côté de l'Isère.
Quel programme pour demain, Élodie ?
Alors le matin, on retrouvera nos pluies du nord-est à la Provence avec de la neige en montagne, du vent encore fort. Ailleurs, on aura un ciel d'averse avec des éclaircies plus belles l'après-midi, du vent toujours jusqu'à 60 à 80 km à l'heure. Du sud de l'Aquitaine vers les Cévennes, le sud des Alpes et la Méditerranée, ce sera mieux avec du soleil, un temps plus sec. Le matin, 4 à 12 degrés et puis l'après-midi, 11 à 13 degrés au nord et 14 à 19 au sud.
Élodie Calac, c'était Jean-Claude Drouot qui jouait Thierry Lafronde, ça fait une minute que je cherche le nom. C'est ça, Amélie.
Bien retrouvé, bon voilà. Souvenir, bravo Pierre.